Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we. With annual reviews to keep you on our best possible tariff. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness, based on an annual review of activity for businesses with up to a £2 million turnover.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Bien sûr, nous sommes en direct à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. 3 heures d'After ce soir avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Jérôme Brantel, évidemment. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et comme tous les jeudis,
le guest du jeudi.
Le guest du jeudi.
Le guest, il est là.
Exactement. Willy Sagnol. Salut Willy.
Salut les amis.
Je précise que tout à l'heure, Julien Cazard nous rejoindra à 23h.
Capterai ça.
Ah oui.
Le Cap Ferret, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas mis les pieds.
C'est vrai?
Non, c'était un peu les vacances à la montagne, voilà.
Ah, t'as fait un peu ski?
Ou enfin, j'ai regardé les gens skier.
Ah, tu skis pas toi?
Non.
Tu skis pas, c'est bizarre ça.
Non, bah écoute, j'ai mes genoux qui veulent plus, j'ai mon dernier gamin qui peut pas skier non plus, donc j'ai fait de la luge avec lui, j'ai fait de la luge. Puis surtout, voilà, pour
faire de la terrasse au soleil.
Exactement. Et puis, tu vois, j'ai mes autres enfants qui peuvent skier, j'ai les amis qui peuvent skier.
Verre de vin chaud ou chocolat chaud en
fait? Ah bah ça, ouais. Le verre de vin chaud, t'es obligé.
Ouais,
obligé.
On aurait pu être au biathlon.
Désolé, j'aime pas ça.
Ou au soir ski.
Moi non plus.
Non, je trouve ça dégueulasse.
Non,
moi,
non mais ça dépend.
Un bon vin chaud avec de la cannelle.
Je trouve ça dégueulasse.
Non, si c'est pas bon vin chaud avec de la cannelle. Déjà, si le vin à la base n'est pas bon, le vin chaud sera pas bon. Mais si le vin à la base est bon, chaud, il sera bon aussi.
En termes de raisin, on a une visite, on peut maintenant en parler un peu plus sereinement.
Voilà.
Bon séjour en tout cas.
Très bon.
Très bien.
Station.
Bonne station.
On est ravis de te retrouver.
Je
crois que c'est bien. Willy vient bosser le jeudi, il repart en vacances, puis on vient bosser le jeudi.
Ah, Willy, c'est le genre quand il va pas faire.
Ah non. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pardon.
Jérôme me disait quel genre de station. Je te vois pas dans une station bon marché, je te vois une station chic quand même.
Bah, étant donné que je skie pas autant que, on va dire, ce qu'on appelle la presqu'île, soit bien.
Megève. Je tente un trio. Megève, Chamonix ou Courche.
Non. Courchevel, je suis pas fan de la clientèle qui va là-bas.
Champs-Rousses,
mais c'est le premier que tu as dit.
Trop cheap pour lui.
Non, c'est le premier que tu as dit.
C'est le premier que j'ai dit tout de suite.
Mais parce que c'est joli, parce que c'est traditionnel, parce que voilà.
Excuse-moi.
Messieurs, plusieurs événements ce soir dans l'After. D'abord, une analyse des vrais objectifs des grands clubs européens. Et oui, on va partir de l'exemple de Manchester United tout à l'heure. Est-ce que ces clubs aujourd'hui pensent plus finalement à leur bilan comptable qu'à gagner les trophées? On en débattra à 22h, vous allez voir, ça va être très intéressant. Le retour de la Bundesliga. Et oui, Paulo Breitner est de retour. Il est revenu de son stage de...
Il sera plus là?
Bah oui, il sera plus là.
Oh merde alors.
Sûr?
Le retour de la Bundesliga.
Ah ouais, mais c'est pas grave, c'est juste le retour. Hein. C'est pas important, ça.
Tout à l'heure à 22h40. Bah pour nous, c'est un événement.
Mais
on va tous avoir le Dortmund, tu vois, à un mois du match face au PSG.
Ouais, mais ça va, vérité d'aujourd'hui, on a le temps encore.
Et puis, autre événement, un nouvel outil, vous allez voir tout à l'heure à 23h pour mesurer la vraie efficacité des attaquants. C'est-à-dire, tu vois, le gars qui met le but qui te fait gagner 1-0 est peut-être plus important que le mec qui te fait le quatrième but du 4-0.
C'est vrai.
Sauf en Coupe d'Europe, peut-être.
Ouais, enfin, si tu gagnes 0, à la rigueur, le match retour, il n'est pas. Sauf si t'es pas le PSG.
C'est une notion de but important.
Voilà, on en parlera tout à l'heure à 23h. Vous allez voir, c'est intéressant avec notre invité. Avant cela, débat sur le mercato lyonnais dans quelques secondes. Edouard G va faire le point avec nous. Les répercussions, les déclarations de Villas-Boas hier à Marseille, Florent Germain a continué son enquête. Il sera là également dans une vingtaine de minutes. Toute l'actu mercato du jour, la chronique de Julien Cazard à 23h20. Il va parler de Jacques-Henri Hérault ce soir. Plus le quiz, évidemment, à 23h40. Et puis, indirect ce soir, le début des 16e de finale de la Coupe de France. Alors, l'autre jour, on avait Didier Quilleux avec nous et on l'a un peu bousculé sur l'état des pelouses en Ligue 1.
Et là, autant celle-là, c'est une galette.
Ah ouais, là, il n'y avait pas raison de le bousculer.
Alors là, Pau, c'est instabilisé en fait. Donc, on joue sur stabilisé. Pau Bordeaux, Nicolas Paolarsi, bonsoir.
Salut l'after, salut à tous. Pelouse calamiteuse. Après, on joue sur un stade de rugby. C'est au stade du Hameau, c'est le stade habituel de la section paloise. Et pour vous donner un ordre d'idée, même les rugbymen.
Pour les pauvres gars du rugby, c'est pas possible.
Même la rugby rugbyman, il la trouve dégueu, cette pelouse. Donc, alors, imaginez les fouteux ce soir.
Ouais, mais alors là, je me permets de vous expliquer pourquoi là, je ne ferai aucun reproche pelouse.
Ah bon?
Ah non. En Coupe de France, que le petit reçoive le gros sur une pelouse d'eau merde, je trouve que ça a son charme.
Tu veux dire, si ça fait partie de la tradition.
S'il pouvait y avoir des grêlons, des bosses.
Genre là, tu dis ça parce que t'as jamais été pro, que t'as jamais joué à un
match. Ah ouais, parce que là, il y en a des bosses. Hein. Là, il y en a. Hein.
C'est pour ça qu'ils disent.
Des taupes. Et que.
Ah non, mais là franchement.
Ça me fait marrer.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu.
Non, mais c'est comme si toi, on te disait maintenant, Daniel, tu vas venir tous les soirs à l'after. Tu verras le micro à chaque fois que tu t'approches trop près, tu vas prendre du courant électrique. Les chaises, il va y avoir des pointes sous les fesses. Tu vois, c'est la même chose. C'est génial, le mec, il t'écoute à la radio. Vas-y, c'est génial, ça.
Non, c'est pas, t'as fait une mauvaise comparaison.
C'est comme si tu faisais l'after.
Moi, j'ai bien aimé sa comparaison.
Non, c'est comme si il faisait l'after avec Nico Jamin. Jonathan McCarty, Kevin Diaz, et voilà, l'année. Ben voilà, c'est la même chose.
Expliquer pourquoi, Willy, ta comparaison n'est pas bonne. C'est en fait, c'est, si tu me dis, je vais faire
jouer contre l'équipe de nationale.
Oui, voilà.
Par des gens sur une petite radio locale et qu'ils ont un matos pourri, ben ça ne me gênera pas.
Non, mais t'as invité.
Je respecterai leur matos pourri.
Mais là, les pros en Coupe de France, ils font leur travail.
Willy, si demain ça ne se passe pas bien à RMC, je dois tout recommencer dans une toute petite radio locale et tout, ben j'irai. Je n'irai pas me plaindre du matos. S'ils ont que ça.
Non.
S'ils peuvent pas me donner plus.
Ah, tu sais, par exemple, quand pendant des années,
tu peux pas reprocher aux gens que t'étais dans le studio,
c'est
difficile.
Quand ils
te donnent le maximum, tu peux plus rien reprocher aux gens.
Non,
là, toi, à Pau, ils donnent le max.
Là, c'est le max. Ouais.
Et moi, ça me fait marrer que les équipes de Ligue 1, elles galèrent sur les champs de patates. Dans ce cadre-là, ça me fait marrer. Tu sais, c'est un peu comme en Coupe Davis. L'équipe qui reçoit, elle fout sur une surface que l'autre n'aime pas. Ils balancent. Tu vois, je sais pas, il y a toujours un folklore un petit peu particulier. On fait tout pour désavantager l'autre. Ça me gêne pas. Ça, je trouve ça drôle.
Au voilà. Sinon, il y a 0-0, hein, Nicolas.
Ouais, il y a 0-0, bientôt le quart d'heure de jeu. Voilà, bon, la pelouse est vraiment calamiteuse.
Parce qu'en ce moment, ils n'en touchent plus.
Écoute, franchement, ça a tout du match traquenard. On rappelle que les Girondins ils sont sur 4 défaites consécutives en Ligue 1. Bon, ils ont gagné entre temps en Coupe de France face au Mans, mais c'est quand même très compliqué pour Bordeaux. Et face au 4ème de National qui a perdu que 2 fois cette saison sur une pelouse comme
franchement,
ça.
Franchement, 4ème de National. Ça peut faire traquenard.
Ouais, moi en tout cas.
L'état de la pelouse déjà.
Franchement, si vous avez un petit billet à mettre, la petite prolongation ou les tirs au but, à mon avis, c'est un pari un peu sûr. Hein.
Alors, Pau qui est entraîné par un ex-joueur de Ligue 1 qu'on connaît bien.
Ouais, Bruno Hurles, qui est sur le banc et qui d'ailleurs fait de très bonnes choses. Alors lui, il a fait un petit peu tourner aussi. Hein. Sa priorité, c'est vraiment le championnat. Il vise la montée en Ligue 2, les Palois. Donc il a laissé ses meilleurs joueurs sur le banc de touche, mais c'est vrai qu'il fait de très bonnes choses.
Et à Bordeaux, il y a des joueurs nouveaux qui jouent.
Écoute, première titularisation de Maxime Pungé.
Donc Bordeaux joue à 10 alors.
Piston gauche. Non, mais la première titularisation également de Rémi Houdin avec le maillot des Girondins. Ouais. Il y a Josh Maja qui a été relancé en pointe. Non, Paolo Souza, il a fait tourner, mais en laissant des hommes en forme. Ils prennent ce match au sérieux. Hein. Il a
Pungé, c'est Souza, un choix hasardeux pour Paolo Souza parce que Pau, c'est pas un. C'est un stade où, je veux dire, il n'y a pas de piste d'athlétisme autour de la pelouse.
Ouais, mais alors je vais dire, vu la prestation de Loris Benito au poste de piston gauche depuis quelques matchs, il prenait pas trop de risques en relançant Maxime Pungé. Hein, parce que le coup.
Tiens, ça me permet de vous raconter une petite histoire bordelaise rapidement. Il y avait une soirée là, cette semaine pour un nouveau partenariat à Bordeaux, les joueurs étaient là. Et en fait, à cette occasion-là, parce qu'il y a bientôt. Il y a bientôt Bordeaux. Non, un truc corporate, quoi. Partenariat. Corporate,
ouais, c'était les vœux du président, en fait.
Et en fait, on a présenté. Tu étais présent, Nicolas ?
Alors, j'y étais pas, mais on avait des gens qui étaient présents. Ouais, c'était les vœux un petit peu du président.
Et en fait, on a présenté une sorte de peinture, une œuvre artistique, censée représenter les légendes du club. D'accord. Sauf qu'en fait, ils ont choisi Souleymane Diawara juste avant Bordeaux OM, qui a plus joué à Marseille qu'à Bordeaux. Donc, le supporter était un peu en colère.
Ah, c'est un peu con. Ouais.
Donc, ça les a pas trop ravis, quoi.
Sinon, le directeur sportif officieux.
Lequel ? Eduardo Macia ?
Non, le directeur sportif non officiel de Bordeaux.
Non officiel.
M'a soufflé que la dernière fois que Maxime Pungé a été bon, c'est quand Kurzawa a été bon.
c'est pas faux. Non, alors pour le coup, c'est pas faux. Je vais. Oui. Oui, c'est ça.
Je vois venir la suite.
Non, c'est tout. Battu.
Tu veux dire jamais, c'est ça que tu veux dire en fait.
Oui, enfin pas souvent. Bah, quand ça va, ça lui est arrivé.
Quand ça va à Monaco.
Quand ça va, il a été bon à une époque. Ouais,
il y a 4 ans.
J'étais en surcoût.
Allez, 0-0 entre Pau et Bordeaux. Tu nous appelles dès qu'il se passe un truc, évidemment. Tout de même, je me permets un message de Florent Gautreau qui nous fait savoir qu'il faut respecter France Bleu Laval. Le matos là-bas est très bon, dit-il.
Je vais pas parler de France Bleu, là, surtout que c'est France Bleu. Donc France Bleu, vu que c'est avec l'argent des impôts, il manquerait plus que ce soit pas bien le matos.
Et voilà, pam, un petit coup pour.
Il faut que je vous rappelle. J'ai fait un rêve de folie.
Quel rapport
à France Bleu ?
Non. Ah ouais. Est-ce que vous faites c'est des années, je sais pas, depuis que j'étais petit, j'avais pas fait un rêve de foot. Vous faites des rêves de foot ?
Non.
Avec
non.
Une équipe qui gagne ou tu sais, genre un truc.
Non.
J'ai pas fait ça depuis.
La dernière fois que j'ai rêvé, c'était de bosser avec Riolo et puis c'est ça, fait. Donc,
c'est arrivé, ouais. Bah.
C'est arrivé.
Et là, dans mon rêve, écoute bien, 8e de finale de Ligue des Champions, 3 équipes françaises. 3, pas 2, 3. Et je pense que c'est dû au PSG Monaco qu'on a commenté hier soir. Et Monaco et Lyon jouaient avant le PSG, étaient déjà qualifiés pour les quarts. Genre, ça, c'est un truc de malade.
Il n'y avait pas Strasbourg dans les trois.
Non. Donc, il y avait Lyon et Monaco.
C'est un rêve. Déjà
contre deux gros.
Justement.
Et en fait, le seul suspense était de savoir Paris, si le PSG allait se qualifier aussi pour qu'on ait 3 équipes en quart de finale de Ligue des Champions. Et le PSG s'est qualifié. Alors, déjà, en soi, là, dans le rêve, c'est un truc de malade, 3 équipes françaises en quart.
Et tu t'es réveillé.
Non, je peux pas réveiller parce qu'avant de me réveiller, il y a Jérôme Bretagne qui m'a gonflé, saoulé. Ouais, t'as vu que la Ligue 1, c'est génial. Tu critiques les clubs français et tout. Et il me faisait une tête comme ça. Alors que moi j'avais envie d'être content.
Mais ça fait longtemps qu'il rêve de toi en fait.
Alors que moi j'avais envie d'être content et il m'empêchait d'être content. Il me disait ouais, tu vois, tu critiques le français. On a mis trois clubs en quart de finale de Ligue des Champions. On a mis trois clubs en quart de finale. Je disais bah ouais, mais c'est génial. Et il me saoulait avec ça en fait. Ouais. Voilà, après je me suis réveillé. Et en fait, c'était pas vrai.
Mais si on part à Lyon, justement.
C'est beau de rêver de moi.
Tout de suite, retrouvez Edouard G. Salut Edouard.
Bonjour messieurs.
Salut Edouard.
Salut Edouard.
Salut Daniel, salut Jérôme, salut Willy, ça va, super, impeccable, tout va bien.
Alors Edouard, on voulait t'avoir ce soir pour faire un petit point mercato, parce que donc, il y a les infos qui nous arrivent. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Lyon voulait Kadewere. Kadewere, l'attaquant du Havre. Lyon a offert 7 millions, le Havre a dit non.
Genre recalé, quoi.
Et puis il y a aussi l'histoire Touzard. Enfin bref, voilà, il faut qu'on fasse un point avec toi, puis qu'on débatte ensuite ensemble de ce qui se passe, parce que Jean-Michel Aulas, il y a quoi une grosse semaine, nous disait, il va y avoir des investissements, c'est acté par le conseil d'administration, on va y aller. Et puis, il se passe rien, les jours passent, Edouard.
Ouais, il se passe rien. Alors c'est vrai que on a l'impression qu'il va pas se passer grand-chose au final si on écoute attentivement ce qu'a dit aussi Rudy Garcia aujourd'hui en conférence de presse. Alors c'est vrai qu'il renvoie à chaque fois les questions du mercato, il nous renvoie vers Florian Maurice ou Juninho ou le président, mais là aujourd'hui parce qu'on est arrivé par des questions un petit peu décalées sur le mercato. Donc en gros, pour le défenseur gauche, vous savez, à un moment donné, il disait voilà, il faut peut-être un défenseur gauche parce que Koné est blessé un long moment et puis parce qu'il manque quelqu'un. Mais entre-temps, Maxwell Cornet a été recyclé, on va dire, en latéral. Marsal, pour le moment, et le coach touche du bois, il n'est pas trop blessé. Donc, il y a deux solutions sur le côté gauche. Youssouf Koné peut rentrer vers la mi-février dans le groupe, au pire, fin février. Du coup, on se demande si en défense gauche, il va y avoir un recrutement. Du côté de la défense centrale, Marcelo, pour l'instant, vu qu'en plus il s'est réconcilié avec les supporters, eh ben, il devrait rester. Du coup, en défense, ça ne va pas bouger. Au milieu de terrain, on parlera de Lucas Touzard, mais vu qu'il y a l'éclosion de Maxence Caqueray du côté de l'OL, on se dit avec John Lucas, avec Lucas Touzard, on va peut-être pas aller chercher quelqu'un. Du coup, peut-être que s'il y a un coup à faire et si la priorité, l'urgence, elle est un seul attaquant, et c'est ce que Rudy Garcia laissait entendre aujourd'hui. Voilà, il reste une quinzaine de jours avant la fin du mercato. À noter aussi que le match de samedi, visiblement, sera important. Alors, bien évidemment, c'est clair, net et précis, c'est un fait. C'est un 16e de finale de Coupe de France. Ça se passe à Nantes. S'il y a qualification, ça veut dire que dans le mois de février, il y aura 9 matchs en 27 ou 28 jours. Donc, répétition des matchs. Donc, peut-être que ça peut induire un mercato de plus. Si élimination, ça fera un match en moins. Donc,
ça peut aussi sentir le célèbre panic buy de fin janvier aussi, ça, si ça avance pas vite là.
Ouais, ça peut aussi sentir le statu quo jusqu'à présent. Donc pour l'instant, on en est là. On sent qu'il va y avoir peut-être un bon coup devant d'un attaquant.
Depay était arrivé fin janvier à Mercato d'hiver, hein, si j'ai bonne mémoire.
Exactement, ouais. En sachant qu'à l'époque, il vu qu'il venait de Manchester et que Manchester avait joué la Coupe d'Europe, il n'avait pas pu faire la saison en la demi-saison là qui amène jusqu'à la demi-finale face à l'Ajax en 2017. Du coup, tu as cité Kadewere, donc le Zimbabwéen du Havre, Karl Toko et Kambi. Bon, c'est visiblement une piste qui est un petit peu abandonnée, et on a lu aujourd'hui dans la presse italienne Christophe Piatek, qui est un Polonais, un attaquant.
Ça, c'est pas mal. Il a cartonné au début. On a beaucoup parlé de lui. Il s'est ensuite éteint, mais c'est un mec qui a pas mal de qualité.
Voilà, donc avec alors la possibilité, d'après ce que disent nos confrères transalpins, c'est qu'il y a possibilité d'un prêt avec option d'achat, ce qui dans la tête des décideurs lyonnais est assez intéressant, ce côté prêt avec une option d'achat. Alors après, est-ce que c'est obligatoire ou pas au final en juin, mais il n'y a pas forcément, parce qu'à Lyon, on n'a pas trop l'habitude au mois de janvier d'acheter des joueurs. C'est souvent des opportunités. Bah, tu as cité Memphis Depay, ouais. Il y avait eu Kassapa en son temps, il y en avait eu d'autres, mais c'est rarement des cadres qu'il faut. Alors voilà l'effectif pour l'instant, ce qu'il en est, en sachant que Rudy Garcia a bien dit que si à la fin du mois il y a les quatre compétitions encore qui sont en cours, ça veut dire qu'il faut se qualifier ce week-end en Coupe de France, ça veut dire que mardi soir il faut se qualifier en finale de Coupe de la Ligue face à Lille, l'effectif sera un petit peu court. Donc là, on peut-être avoir une dizaine de derniers jours du mois de janvier un peu.
Alors on va écouter Garcia, puis après on débat. Edouard, reste avec nous. Donc c'est toi qui étais avec Rudy Garcia cet après-midi là, et lui, ben, il estime quand même qu'on risque d'être trop court à Lyon.
Je devrais pas le dire, mais on a une infirmerie où il y a personne pour l'instant, si j'accepte les cinq évidemment qui sont out. Normalement, dans l'infirmerie, il y a au moins toujours un joueur, deux joueurs, peut-être trois, pour qui loupe un match, qui en loupe deux. Et ça tourne, et pour l'instant, on n'a personne. Donc là, Maxence est suspendu. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de joueurs que je ne vais pas prendre dans le groupe, parce que mon groupe, il est quand même vachement restreint. Donc, embarqué dans les quatre compétitions, et comme on veut les jouer tout à fond, je pense qu'on sera trop juste. Mais bon, on aura des éclaircissements sur le calendrier assez vite.
Oh, le but pour Pau !
Le but pour Pau ! Oh, vous l'avez dit, que ça sentait le match traquenard, 1-0 pour les Palois, 23e minute de jeu, sur ce coup franc frappé, dégagé par la défense bordelaise. C'est le capitaine Mustapha Namé qui arme une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Il reprend le ballon un petit peu en demi-volée. Et Gaëtan Poussin ne peut rien faire. Ça fait 1-0 pour les Palois qui n'avaient pas touché le ballon depuis le début du match. Et sur leur première incursion dans les 20 derniers mètres bordelais, ça fait but. Ça fait 1-0 pour Pau.
Gaëtan Poussin dans les buts.
Oui, Gaëtan Poussin qui est resté sur 5 clean sheets en 5 matchs pro.
Dommage, j'aurais pu jouer avec Pierre Lègle.
Ou avec Poussin Mélin.
Ou avec Edouard G.
Ouais, avec Franck Leboeuf aussi.
Pourquoi Franck Leboeuf?
Vas-y, explique-nous.
Non, là, t'as pas compris. Je crois qu'on était parti sur les oiseaux plutôt là. Mais,
je croyais qu'on était sur les animaux, moi. Ah, excusez-moi, j'ai ratissé trop large.
On allait dire, explique-nous pourquoi.
Non, à tout à l'heure. Sur les oiseaux, pour
en
les
tout cas, pour l'instant, donc surprise 1-0 pour Pau après 23 minutes.
Bah, de toute façon, il peut tout arriver. Parce
vous avez bien écouté, Garcia?
Bah oui, pourquoi?
Il a quand même dit un truc extraordinaire.
Il a commencé
par dire. Il a fait une spéciale Rudy Garcia.
Il a commencé par dire je devrais pas le dire, mais je le dis.
Non, il a dit j'ai pas de blessés, si ce n'est les blessés.
Non. Il a fait la spéciale Garcia, c'est ça. Écoutez bien.
Je devrais pas le dire, mais on a une infirmerie où il y a personne pour l'instant, si j'accepte les 5, évidemment.
Si j'accepte les 5, évidemment.
Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit.
Mais là, c'est la spéciale Garcia.
On serait premier si on n'avait pas perdu.
Voilà.
On n'a pas. L'infirmerie est vide si on enlève les blessés. Bah oui, si t'enlèves 5 mecs qui sont gravement blessés. Voilà, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il aime bien ça.
Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Donc on rappelle, c'est Omar Soley, Memphis Depay, Jeffrey Nadelaïde qui sont out pour la saison, les ligaments, et puis Youssouf Koné, Léo Dubois qui devraient revenir l'un mi-février, l'autre plutôt début mars.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de la situation lyonnaise là? Il faut commencer à s'inquiéter ou bon, on est le 16?
Mais s'inquiéter de quoi?
Bah, les mercato là.
Du fait que l'effectif est court.
Bah oui. Et que pour l'instant, on ne voit rien venir.
Ouais, mais attends, l'année dernière, quand le contrat de Genesio n'est pas renouvelé, il y a Aulas qui dit il y a du lourd qui va arriver. Donc il y a Silvinho qui est venu. Là, avant le mercato, il a dit la même chose, il va y avoir du lourd.
Il n'y a pas de lourd qui vient.
Il n'y a pas de lourd qui vient. Je pense que les gens se sont rendus compte qu'il n'y aura pas de lourd qui viendra.
Il n'y a pas de lourd qui peut aller à Lyon. Il n'y a pas le pouvoir
aujourd'hui,
d'attraction.
T'as pas, voilà, c'est ça. C'est comment tu attires un gros. Déjà, pour un gros joueur, qu'il soit libre en janvier, c'est qu'il y a déjà Anguille sous roche.
Oui. Et
en plus, voilà. Et en plus, pour se dire, faut aller à Lyon, il va dire, ouais, mais un grand joueur, il veut jouer avec d'autres grands joueurs. Et aujourd'hui, mis à part Depay, il n'y en a pas d'autres à Lyon. Mmh. Et donc, il va se dire, bah, je suis un peu tout seul.
Dans 12e élément, il veut jouer à la Ligue des Champions et Lyon n'est pas sûr d'y être l'année prochaine.
Oui.
Donc là, on parle si c'est des bons joueurs. Donc après, on entre dans le joueur de deuxième ou de troisième catégorie. Après,
excusez-moi, mais Depay à l'époque, c'était plutôt une bonne opération pour Lyon.
Oui, mais Depay, c'est à l'époque, ça faisait figure d'abord de pas énorme coup parce que le mec était en situation de grave échec. Lyon a réussi à le relancer. Ça n'a pas été simple. Hein. Il y a eu beaucoup de difficultés avec Memphis et notamment dans la gestion quotidienne. On se souvient des soucis qu'a eu Genesio à ce moment-là. Depay, quand il vient, on s'attend pas à ce que ce soit un gros joueur. Donc, s'ils réussissent à trouver un coup comme ça, un mec en situation d'échec quelque part, qui veut se relancer, pourquoi pas? Mais
ça se travaille, Daniel.
Je vois pas bien.
Ce que je veux dire, moi, ce que je comprends pas dans ce grand club qui est au niveau économique le deuxième club de France
et qui a fait son retour dans le top 20.
Okay.
Des clubs en Europe quand même. Hein.
Ouais.
Quand même.
Donc, ce que je comprends pas, c'est que la cellule, le recrutement, ceux qui vont visionner les matchs, ceux qui observent les joueurs, parce qu'en effet, le mercato en hiver, il est compliqué. Quand tu veux te retourner comme ça, là, je suis d'accord avec vous. Tu veux un joueur phare, tu l'auras pas parce qu'il est important dans un club, ou sinon, en effet, c'est un ancien joueur phare qui est en situation d'échec et qui veut se relancer. Est-ce que ces joueurs-là sont les bienvenus dans un mercato d'hiver où tu dois t'acclimater au plus vite dans ton équipe, dans ton nouveau club? Je suis pas persuadé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu as fait du travail en amont, et encore une fois, c'est encore une fois la cellule recrutement, j'espère que Lyon ne s'est pas dit « Oh, de toute façon, on a commencé l'année, tout va bien, on va pas recruter en hiver. Nous, l'important, c'est le mercato d'été. » Non,
tu pars jamais dans l'état d'esprit en te disant on va recruter encore en janvier. T'essayes de faire le meilleur mercato possible en été, l'été, ouais. En te disant avec ça, normalement avec ça on devrait faire atteindre nos objectifs ou en tout cas s'en rapprocher. Là ils ont quand même deux blessés graves qui arrivent en même temps dans une période début décembre où il faut, tu vois, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, t'as deux mois pour savoir.
T'es en situation d'urgence.
Voilà, t'es en situation d'urgence. Après, le gros avantage de Lyon cette année, par rapport à ce mercato, c'est qu'ils sont sur une année de championnat d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui veulent absolument jouer le championnat d'Europe et qui sont peut-être en difficulté dans certains clubs et ils ont besoin de temps de jeu pour justement être sélectionnés pour.
Oui, mais c'est compliqué.
Et c'est ces joueurs-là qu'il faut viser.
J'aimerais avoir la liste de ces joueurs-là.
Piatek, par exemple, ça peut être son cas.
Parce que des joueurs, parce que ces joueurs-là.
On les a vus passer, les noms. Hein.
Tu vas t'attacher au moins à leur motivation pendant 4-5 mois. De prendre des joueurs en prêt, c'est facile.
Thomas Lemar, Nzonzi.
Mais qu'avoir un mec qui vient à 100%,
ils peuvent pas les prendre, ces
mecs-là. Non, mais ok. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vous dis que. Ils ont réagi dans l'urgence. Alors oui, par la force des choses, parce que tu perds deux joueurs très importants, peut-être tes deux meilleurs joueurs de l'effectif, surtout un, Memphis Depay, et tu le perds, c'était pas prévu, ok, qu'il se retourne et qu'il cherche un éventuel remplaçant Memphis Depay, ok. Mais avant, quand tu commences la saison, c'est là que je vous rejoins pas, c'est que quand tu commences la saison, tu prends Silvinho, t'as un recrutement, il est comme il est, ils ont fait des erreurs de recrutement, la preuve c'est le celui qui est arrivé Andersen. C'est un échec pour l'instant et ils ont investi beaucoup d'argent. Donc quand tu commences la saison, que tu vires ton entraîneur au bout de quelques semaines, derrière, me dites pas que ils peuvent pas prévoir et se dire bon bah ok, là on va pas bien du tout en termes de résultats, on a viré l'entraîneur, on en prend un autre, il faut absolument qu'on travaille pour renforcer cette équipe en hiver. Donc s'ils ont pas eu cette attitude là, bah c'est grave et je pense que c'est le cas parce que sinon il y aurait déjà du recrutement. On est le 16 janvier, il y a encore rien.
Est-ce qu'on peut mettre les trucs sur la table aujourd'hui? Est-ce que Lyon a réellement besoin de prendre des mecs?
Bah oui.
Alors on va voir.
Mais ils ont besoin, Daniel, ils vont pas trouver un mec
plus fort que Memphis. On est d'accord?
Non, mais après tu peux pas faire du.
Combien t'as de mecs dans le registre offensif de dispo aujourd'hui? Cornet, Dembélé, Terrier, Bertrand Traoré. Ça fait 4. C'est pas mal déjà, 4.
Non, mais ce qu'il
y en a d'autres, Edouard, complète un peu avec
les petits jeunes. Il y a les petits jeunes.
Le petit jeune Amine Gouiri, par exemple.
Non, mais d'accord.
Attends, au milieu. Jean-Lucas va être mis plus en avant. Il a été recruté. Il faut bien qu'il soit mis en avant quand même, le mec. Mais
s'il est pas bon, c'est pour ça qu'il joue pas. Ben, donc, t'es d'accord avec moi.
Mais là, il est dans une période de.
Il est dans une période où je pense qu'il va être relancé et qu'il est un peu mieux. Okay. Non, mais ça veut dire qu'il faut que t'ailles trouver mieux. Moi, je te parle de l'effectif actuel.
Trouver mieux que Jean-Lucas, tu te fous de moi ou quoi, Daniel?
Moi, je te parle de l'effectif. Faisons le bilan sur l'effectif. Ouais. Jean-Lucas, Aouar,
Mendes,
Thiago Mendes, Cacré maintenant qui vient de sortir. Le petit Cherki, on va le mettre dans la zone du milieu.
Attendez, je vais tous vous mettre d'accord parce que, en fait, Gizmo nous relaye une information importante qui vient de Valence. C'est le média espagnol, c'est Copé Valence, donc la radio espagnole de Valence, qui dit voilà, c'est officiel, Gamero est sur le marché, Valence écoute les offres, ils veulent 14 millions.
Hein? 14 millions?
Ah, mais c'est ce qu'ils veulent. Après, il a aussi 33 ans, mais.
Il veut 14 millions pour un attaquant de 33 ans qui n'est même pas en équipe nationale.
Mais excuse-moi, mais Gamero, il vient aujourd'hui. J'aime beaucoup le joueur. Mais.
Il t'amène quoi comme plus-value?
Déjà, Gamero, il ne joue pas en 4-3-3. Ouais. Donc, déjà, Rudy Garcia qui vient de retrouver son 4-3-3 dans lequel il est très à l'aise. Avec les petits résultats qu'il vient d'avoir là récemment et tout, il a réorganisé son équipe sans Memphis dans le 4-3-3 parce qu'il n'arrivait pas à faire jouer Memphis autrement. Il va prendre Gamero pour mettre Dembélé sur le banc.
Non, mais je pense pas que ça soit la priorité.
Alors, reprenons les flics. Donc, au milieu, déjà, on était 5.
Parce qu'il faut faire une pause depuis déjà 5 minutes.
Et Touzard 6.
D'accord.
À considérer que Touzard reste ou part et tout, on voit. Derrière, ils ont encore combien d'arrière droit là? Tété, Raphaël.
Bon, Dubois est blessé.
Dubois, il va bien revenir.
Qui va revenir début mars.
Ouais, mars.
Voilà. Ils ont 3 défenseurs centraux. Marçal à gauche.
Marçal et puis Cornet.
Marçal et
Cornet qui va revenir.
Et Cornet.
Bon, aujourd'hui, si Touzard s'en va, tu prends un milieu de terrain pour le remplacer. Je sais pas qui tu vas trouver.
Mais Daniel, je te rejoins pas.
Et je vois pas qui vont aller prendre.
Alors tout est magnifique. Alors en fait, tous les joueurs que tu viens de citer.
On
conclut, Jérôme, s'il te plaît.
Non, mais tous les joueurs que tu viens de citer, en fait, eh ben ils vont tous redevenir des très bons joueurs, ce qui est pas le cas depuis 6 mois pour la plupart. Et hop, en claquant des doigts, parce que Rudy Garcia a trouvé la formule, on recrute pas.
Alors on continue le débat sur Lyon si vous voulez dans quelques instants. Mais allez, faut vraiment qu'on s'arrête.
Janvier, tu ne trouveras pas des mecs supérieurs à ceux qui sont dans l'équipe.
Allez, à la prochaine.
Ah ben voilà, c'est pas pareil.
Toujours à zéro pour Pau face à Bordeaux. Je dis 32 minutes. On retourne sur place dans quelques instants. Lyon et Marseille au programme de l'after. Dans quelques instants, 32-16 pour débattre avec nous. N'hésitez pas à nous appeler.
RMC, 21h30.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Vous vous souvenez de ce tube international.
C'est long. Hein.
Oui, Lorient, ils avaient aimé, ils l'avaient passé dans le stade, celle-là. C'était sympa, touchez pas Gamero. Bon, on va conclure sur Lyon. Willy est là, Jérôme est là, Daniel est là. Mais d'abord, un petit point sur Pau-Bordeaux. Nicolas Paul-Orsi.
Il reste 7 minutes, il y a 1-0 pour les Palois. Le but de Mustapha Nam, oui, dans cette première période. 1-0, le but de Nam après un ballon mal dégagé par la défense bordelaise. La reprise en demi-volée à l'entrée de la surface de réparation. Bordeaux qui pousse, hein. Bordeaux qui domine largement. Mais c'est un match qui est un petit peu en train de se transformer en boucherie. La pelouse est très compliquée, les contrôles sont un petit peu fuyants, un petit peu longs. Et du coup, on laisse traîner des et c'est vrai que le jeu est en train de se hacher. En tout cas, c'est un match qui s'annonce très compliqué pour les Girondins. Il reste un petit peu moins de 7 minutes, 1-0 pour Pau.
À tout à l'heure, on accueille Mehdi pour conclure sur Lyon. Et Mehdi a une idée assez précise de ce qu'il veut au 32-16 supporter lyonnais. Mehdi, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à toute l'équipe.
Merci.
Bonne année, meilleurs vœux déjà pour commencer.
Bah, toi aussi.
Voilà. Et longue vie à la sœur. Encore 15 ans, j'espère.
Eh bien écoute, pourquoi
et Daniel, il rendra l'argent au Qatari aussi.
Oui, d'ailleurs, on a toujours rien reçu, Daniel. Il serait temps qu'il s'envoie.
Sinon, on continue, tu veux dire.
Bon, Mehdi.
Oui, Gilbert.
Le mercato lyonnais, là. Comment tu vois la suite, toi?
Alors, c'est toujours pareil. Là, vous avez fait une petite énumération des joueurs qu'on a besoin. Moi, j'aimerais bien Gamero. Je reconnais qu'il faudrait peut-être aller à latéral gauche parce que j'ai rien contre Marçal, mais à chaque fois, il prend un rouge tous les trois matchs. Donc, et que Koné, il fait pas l'affaire et puis il est blessé jusqu'à février ou mars. Et donc, du coup, j'aimerais bien un latéral gauche. Je ne sais pas si Edouard G a des infos sur le latéral. On a parlé du latéral du Milan, Ricardo Rodriguez. Je ne sais pas ce que ça donne ou pas.
Edouard ne l'a pas cité, donc je pense que.
Bon, on en a parlé à un moment donné.
On prend les mecs en fin de vie, quoi.
Alors, moi, c'est le mercato hivernal, Daniel. Donc, à un moment donné, tu n'as pas le choix.
C'est juste pour prendre des joueurs, mais des mecs qui sont au-delà de la situation d'échec.
Le mec, il est au Milan, qui est le Milan et pas dans une grosse situation non plus. Si en plus, lui, je le laisse partir, c'est qu'il est vraiment pas bon.
pas que Milan, ils sont dans.
Il n'est plus bon. Voilà.
Milan, ils sont en perdition même, carrément.
Voilà, après ça dépend, là, comme vous avez parlé, schéma tactique. Est-ce que Garcia veut tout le temps jouer en 4-3-3
juste c'est le schéma qu'il maîtrise, hein. Comme ça, il ne s'embête pas parce qu'il a juste à remplir les cases.
Donc, dans ce cas-là, on ne va pas se mentir, si Lyon passe là, le tour contre Nantes et la demi, comme tu as dit, le rythme va être freiné. Donc, tu n'as que Cornet, Traoré et Terrier pour jouer sur les couloirs et tu n'as que Gouiri et Dembélé. Sachant que tu n'es pas à l'abri d'avoir d'autres blessures de 10 jours, de 15 jours, avec 3 croisés dans la saison, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut anticiper. Donc moi je veux bien, mais Jean-Lucas, j'aimerais bien le voir un peu plus jouer, parce qu'à chaque fois
Il va jouer maintenant, là, il va jouer.
Ouais, il va jouer, le petit Cacré, il a fait son trou. Bon, moi, Andersen, on va peut-être arrêter de faire des transferts avec les Italiens, parce qu'entre Mapou et Andersen, ça commence à piquer un peu au derrière, désolé.
Excuse-moi, Mehdi.
L'égalisation bordelaise. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais quel but de Josh Maja, en tout cas, sur ce centre de Pungé, venu de la gauche, la reprise de l'attaquant bordelais qui vient couper au premier poteau du pied gauche, et ça vient lomber le gardien palois. Je pense qu'il a beaucoup de réussite. Josh Maja.
Le capitaine de Pau, là.
Ouais, il est chaud.
Tu vas aller s'acheter un cerveau, lui, excusez-moi, mais.
Il est sur toutes les actions.
Là, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, lui. Hein.
Ouais, bah, il a déjà un carton jaune.
Là, il est venu mettre un coup de coude, mais franchement, énorme, à Adli, qui repartait avec le ballon sous le bras pour réengager.
Ah, il magnifique son but. Voilà. Et pour Daniel Riolo, le centre vient de qui ?
De Maxime Pungé.
Maxime Pungé.
Exactement.
Voilà, merci. Ça fait filoche.
Ça fait filoche.
Ça fait
filoche. Non, mais franchement, il est très intéressant ce soir pour le coup, Max Pungé.
Ça fait passe D.
Mais c'est parce que le terrain est pourri.
De la gueule à Rio. Voilà.
Ça fait un partout, en tout cas, sublime but de Josh Maja qui joue très peu, mais qui, à chaque fois qu'il joue, est très efficace. C'est vrai que Jimmy Briand joue beaucoup plus. Et pour le coup, Maja, son ratio temps de jeu-but est assez impressionnant depuis le début de saison. Ça fait un partout. Il reste 10 secondes dans le temps réglementaire de cette première période avant le temps additionnel.
Mehdi, concluons avec toi. Je t'ai coupé, pardon, pour ce but bordelais.
Non, je te disais juste qu'en ce moment, sur les transferts côté italien, on n'est pas bien, ça pique un peu derrière parce qu'entre Mapou, qui 50 contrats, 300 000 euros, et là, Andersen.
Il est toujours à Lyon, Yang Gambi,
ouais ? Ouais, Mapou est toujours là.
Pourquoi vous ne faites pas jouer ?
Parce que je pense qu'il ne sera pas mieux qu'Andersen.
Tu sais que Garcia l'a repris déjà dans le groupe pro, hein. Oui, il le connaît bien, tu me diras, Garcia.
C'est quand même une histoire incroyable.
Mais alors qu'il n'y était plus avec Genesio. Ouais.
Non, mais c'est incroyable, cette histoire-là.
C'est sûr que le ratio, ce qu'il coûte, ce qu'il joue, c'est
essayer
ouf.
De se renseigner, de savoir comment ça s'est passé et quelle est son hygiène aujourd'hui, parce que son hygiène de vie, parce que c'est pas possible. Quand même, alors je veux bien que ça a jamais été le meilleur défenseur au monde, mais quand même, quand tu vois certains défenseurs de Lyon, tu te dis, mais comment lui, il n'a jamais eu l'occasion de revenir, quoi.
Bah ouais. Il avait rejoint un match, Jérôme, en Coupe de la Ligue contre Toulouse, de mémoire. Et je crois qu'il avait fait encore une boulette. Il était sur le coup d'une boulette, je crois. Donc, Genesio l'avait remis une fois, je crois.
Mais le mec, il a quand même fait une boulette quand ça fait 3 ans qu'il est au
poteau. Ah, but de Pau !
Mais non !
Oh là là !
Mais non ! But pas loin, juste avant la mi-temps. Il est dingue ce match sur ce petit 1-2 dans les 20 derniers mètres, alors que la défense bordelaise était complètement déséquilibrée. Jarju qui vient trouver Sabali en relais. Il le décale parfaitement dans la surface de réparation et il gagne son duel face à Gaëtan Poussin. Ça fait 2-1 pour Pau juste avant la mi-temps. Les Palois qui reprennent l'avantage alors que les Bordelais avaient fait, semble-t-il, le plus dur en égalisant. Ça fait 2-1 pour le club de National face aux Girondins.
Ouais, et les Palois, ils mettent le pied. Hein. Je pense que là, il y a stratégie claire.
Claire, ça va durer.
C'est un match de coupe, quoi. C'est quoi tu veux que ce soit un match de quoi
En général,
il y a un arbitre pour faire le ménage.
Je donne une information factuelle.
En général, ça dure. Ils vont réussir comme ça, être dans le rythme, dans les duels pendant une heure. 60e, normalement, l'équipe de Ligue 1, la dernière demi-heure, elle confisque le ballon. Et...
Normalement.
On va voir.
Ah, ben oui, après.
Merci, Mehdi, en tout cas. Rien à rajouter sur Lyon, les gars.
Bah, si, sur Lyon.
Pour conclure, alors.
Je crois savoir que Flo Maurice lui est braqué sur l'attaquant du Havre. Il veut réussir ce coup-là. Pour le reste, Lyon n'a pas des moyens démesurés et n'a pas les moyens de mettre sur le tapis le blé permettant.
Flo Maurice, il était déjà à bloc à l'époque sur l'attaquant de Châteauroux, là, hein, Mateta, qui au final n'a jamais rien fait à Lyon. Hein.
Voilà.
Donc,
mais un jour, il faudra revenir sur qui a recruté Maurice et faire la comparaison avec ce que faisait Lacombe dans les années 2000. J'en ai déjà parlé. Bon, bref, qu'est-ce que je disais ? Ils n'ont pas les moyens de prendre un joueur au milieu ou devant supérieur à ce qui est déjà dans l'effectif.
Ah ouais.
Et ça, c'est terrible.
Mais
ça,
Marseille,
c'est
terrible. Dans quelques instants,
c'est un club qui est dans le top 20 mais, au niveau oseille mondial.
Le mot de la fin pour Jérôme. Tu donnais l'effectif. Me dis pas que cet effectif-là peut pas être renforcé, que ça soit au milieu. Surtout
si t'as
derrière.
Des bonnes idées, t'es le fan à Flomoris parce qu'il est perdu en ce
mais
moment.
Non, mais attends, c'est moi, je ne bosse pas à Lyon. Excuse-moi, mais
là,
moi,
tu connais Flomoris,
moi si je suis le président de Lyon fil. Aujourd'hui,
de son numéro, demande
si je suis le président de Lyon et que ceux qui ont qui gèrent la cellule recrutement ne sont pas capables de me sortir au moins un ou deux défenseurs et au moins un ou deux milieux de terrain. Je te parle pas des attaquants parce qu'en
depuis
effet.
Depuis des années, ils ont fait que des secondes zones à Lyon.
Donc,
il faut qu'on ait le temps de parler de Marseille.
Il y a un problème, c'est le de recrutement. Je l'ai dit depuis des années, mais tout le monde me dit. C'est fantastique qu'ils recrutent.
2-1 pour Jean.
Et moi, je te dis, il y a un problème encore. Et juste pour finir, Gilbert, il y a un problème parce que quand tu vois la communication des dirigeants de Jean-Michel Aulas et même de l'entraîneur aujourd'hui qui dit, on va jouer les quatre compètes à fond. Mais tu prends les gens pour des cons, en fait. Les supporters de Lyon, tu les prends pour des cons.
Coupe de la Ligue, au mieux, t'as encore deux matchs avec une finale qui est dans deux mois.
Excuse-moi, mais avec cet effectif-là, pas renforcé,
t'as deux matchs contre la Juve, bon.
Tu vas rien gagner. Ça fait des années qu'ils gagnent rien.
Marseille, dans quelques instants, au programme avec Florent Germain qui va nous rejoindre 2-1 pour Pau à la mi-temps.
Voilà, balle de 2-2.
On se retrouve dans quelques instants dans l'after, bien sûr. C'est quasiment à la mi-temps à Pau.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Willy Sagnol et la Jérôme Bretagne et la Daniel Riolo également. N'oubliez pas, à 22h, notre dossier spécial gros club. Est-ce que les gros clubs, on prendra l'exemple de Manchester United, aujourd'hui cherchent plus à faire des sous qu'à gagner des trophées. Oui, le bilan comptable, l'EBITDA, comme dit Jean-Michel Aulas, compte désormais parfois plus que le reste. On vous l'expliquera à 22h. Mais pour l'instant, on parle de Marseille. Je précise que c'est l'habitant à Pau ou Pau. Donc pour l'instant, c'est une surprise. Mène 2-1 face à Bordeaux en Coupe de France. Et Florent Germain nous rejoint. Il est à Marseille. Florent, bien sûr. Salut Florent.
Salut Gilbert. Salut les gars.
Salut
à tous.
Florent, hier évidemment, on a assez brièvement dans l'after expliqué ce qui s'est passé avec Villas-Boas. Quelles ont été les suites aujourd'hui dans l'environnement du club, les supporters et en interne?
Écoute, en interne, d'abord du côté des joueurs, très franchement, la plupart racontent qu'ils ont vécu ça avec beaucoup de détachement, voire que ça ne les intéresse quasiment pas, qu'ils sont concentrés sur leur projet sportif pour le moment, avec donc la Ligue des Champions, l'engouement qu'il y a dans le vestiaire, etc. Mais malgré tout, quand on creuse un petit peu plus, c'est vrai que chez certains et plus largement en interne, chez les employés, on a trouvé quand même que Villas-Boas avait pointé du doigt certains thèmes essentiels, certaines préoccupations, pour pas dire inquiétudes qu'il y a chez beaucoup de salariés à l'OM, voire chez certains joueurs ou dans leur entourage, à savoir quel est le projet, où va l'OM, pourquoi il n'y a pas de rénovation de contrat, est-ce que c'est vraiment sérieux de vouloir vendre cet hiver. Donc voilà, il y a cette inquiétude-là. Et d'ailleurs, juste un petit mot, Daniel, il y a quelques jours les vœux du président donc à tous les salariés, et il a eu un discours qui au final présageait un petit peu de ce qui allait se passer, puisqu'il a dit en gros: je serais ravi qu'on aille en Ligue des Champions, on a un coach de grande qualité, le travail porte ses fruits, mais, et il a prévenu tout le monde, ne nous enflammons pas, la priorité c'est la pérennité du club. Il y a même cette crainte que quelque part l'OM refasse le même coup la saison prochaine en Ligue des Champions, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de moyens. On se rappelle du fiasco de la dernière fois où il y avait eu 0 point en 6 matchs.
C'est tout ce que je dis depuis le mois de
voilà août. Exactement, mais quelque part du coup il y a eu un discours assez lucide même si
encore
peut être décevant
qu'on est lucide là-dessus
de la part du président Hérault, qui dit il faut d'abord pérenniser le club, et la Ligue des Champions ne va pas tout effacer, tout sauver.
Alors je voudrais qu'on revienne, parce qu'hier on n'a pas eu beaucoup de temps, sur ce qu'a dit Villas-Boas, et j'ai réfléchi ensuite à ses déclarations et finalement à ce qui est peut-être le problème de fond de Marseille aujourd'hui. Villas-Boas hier, ça a choqué tout le monde. Tous les supporters de l'OM ont été choqués et se sont rangés du côté de Villas-Boas. J'ai entendu du gars également dire...
Bon, hier soir, on avait un auditeur marseillais qui lui disait: attends, Villas-Boas, il est bien gentil, mais...
Attends.
Ouais, pas tous.
Ouais. Ok. Bon. Oui, je m'en souviens. Les propos de Villas-Boas ont eu ce poids-là. Pourquoi? Parce que l'OM, en situation de perdition l'été dernier, voit débarquer ce coach qui a quand même une renommée, qui redore le blason du club et de la ville, qui a des résultats, qui remet l'OM dans le haut du classement et qui, en gros, redonne un petit peu d'orgueil et de fierté aux Marseillais. Donc, en 6 mois, il a une cote énorme, pourquoi pas, bon, à juste titre, on va dire, mais qui est indexée sur la décote des dirigeants. Le drame de l'OM, en fait, c'est que depuis des années, les dirigeants soient, comment dire, en déconnexion avec le peuple marseillais. Les Marseillais n'aiment pas leur président. Et ils ont aimé deux de leurs entraîneurs récents. Il y a eu le même phénomène avec Bielsa, comme il y a avec Villas-Boas aujourd'hui. C'est qu'on ne sait plus tellement qui aimer. Les joueurs, on les a aimés, mais ils nous ont déçus. Les entraîneurs sont passés, on en a aimé un petit peu, mais ils nous ont déçus également. Et il y en a deux qu'on a beaucoup aimés, Bielsa, Villas-Boas. Mais les présidents, ceux qui sont censés incarner le club, ben à l'OM, on les a pas aimés parce qu'ils ont pas su se faire aimer, parce qu'ils ont eu pas les bons discours, parce qu'ils ont tout simplement pas bien travaillé. Mais il y a eu un problème. Parce que dans le fond, si on pose réellement le fond, Villas-Boas, qui est là que depuis 6 mois, qui vient à une conf et qui dit en gros, bah moi, je pense que ceci, je pense que cela, le machin. Si ça avait été dit au moment où tu as un président puissant à Marseille, qui restait sur, je sais pas moi, 4-5 années de bonne gestion, un peu solide, et qu'on avait confiance en lui, bon, on aurait dit, on aurait apprécié les choses différemment. On aurait dit, Villas-Boas, t'es mignon, ça fait 6 mois que t'es là, tu nous fais gagner une série de matchs, on est deuxième, t'es gentil, mais le président, c'est lui le patron, si t'es pas content, tu te casses.
Raccourci, Daniel.
J'ai eu ce retour-là en interne, Daniel, à savoir que certains n'avaient pas apprécié, malgré tout, les propos de Villas-Boas, parce que le timing pour certains n'est pas bon, et parce que il a, mais ça franchement, je pense qu'il le fait pas forcément volontairement. Il a, on en a parlé, je crois hier, il a parfois le costume de dirigeant, André Villas-Boas.
Mais c'est ça le
et
truc.
Certains
c'est
estiment, ça, le drame certains
de
l'OM, dit,
c'est qu'il n'y a pas de dirigeant solide, Flo. Parce que moi aujourd'hui, je peux pas te dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé Villas-Boas. Je prends acte, je regarde, mais je me dis qu'il a en 6 mois une puissance qui est déjà démesurée. À l'OM.
Oui, mais c'est aussi parce que Daniel, à l'OM, on oublie tout, et on oublie déjà qu'il y a un an et demi, il y avait eu une belle saison.
Non, mais ça a toujours été comme ça à Marseille.
Voilà, oui, non, mais c'est pas normal.
Le Messi.
Oui, parce que les dirigeants ne sont pas assez forts.
Ils ne sont pas assez forts, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui c'est problématique d'en arriver là parce que l'image, elle est horrible. Encore une fois, on égratigne les dirigeants à juste titre et surtout le président et l'actionnaire qui a qu'une envie, c'est de récupérer une partie de l'argent qu'il a injecté. Voilà, il est là le problème et que le sportif, comme beaucoup de clubs, sauf qu'à Marseille, il y a la passion en plus de certains clubs par rapport à certains clubs et que les gens s'aperçoivent que le sportif passe en second plan et ça c'est problématique et que l'année prochaine, à mon avis, le projet, même s'il y a la Ligue des champions, le projet, il avancera pas et au contraire, ça va reculer. Donc ça va être un échec monumental.
On s'accroche au présent et il y a un mec qui a redonné de la fierté au club et de la dignité, Villas-Boas, exactement. Parce qu'il réussit, voilà.
Willy, ton avis à toi.
Ouais, moi j'entends un petit peu tout. Oui, je suis d'accord pour dire que Villas-Boas a mérité tout ce qui lui arrive parce que il a fait des super choses, mais c'est vrai qu'il est là que depuis 6 mois. Lui, il se projette pas du tout dans l'avenir. Donc, à la rigueur, les finances du club, il en a rien à branler parce qu'il lui dit lui-même, s'il faut, dans 2-3 ans, j'arrête et je me casse. Et en fait, c'est génial. Il y a que dans le foot où t'as le droit de ça. T'as un mec, t'as un des cadres du club qui découpe le président. T'as essayé de faire ça dans une entreprise classique?
Enfin, dire qu'il en a rien à faire du financier, non, c'est pas vrai.
Mais j'ai pas dit qu'il en a rien à faire, mais je dis juste que Villas-Boas, quand tu écoutes son discours, c'est
un peu plus.
De toute façon, moi, c'est le projet. Puis si je dois arrêter, j'arrête, voilà.
Oui, mais Willy, c'est ce que j'ai dit avant. S'il fait ça, c'est parce que d'abord, il le fait pas pour faire du mal. C'est qu'il n'y a pas de direction forte. C'est la faillite des dirigeants qui l'autorisent indirectement à ça.
Ouais, mais peut-être
qu'il a
aussi.
Je suis d'accord. Et que les supporters basculent du côté de Villas-Boas. C'est parce que en 6 mois, selon eux, et presque je les comprends, ils ont raison de le croire, eh ben, il a fait mieux que des dirigeants qu'on juge incompétents. Mais...
Top, Slim est là au 32-16.
Tu comprends le drame, Willy?
Oui, salut Slim. Slim, bonsoir.
Bonsoir, d'abord bonne année à tous, pour ceux qui sont là. Voilà.
Bonne année
à
tous.
Bonne année.
Oui, en fait, je voudrais réagir plutôt par rapport à ce qu'a dit Daniel, qui est assez intéressant, et j'aimerais rebondir en fait par une question toute bête. Combien y a-t-il de présidents de l'OM qui faisaient en fait partie du sérail sportif, du sérail du football? On a remonté peut-être depuis Pat Diouf.
Ouais.
C'est le dernier. Ouais, c'est vrai qu'il avait une cote de popularité.
Dacier, c'était pas le cas. La Brune, c'était pas le cas. Et Rose, après, pas le cas.
Chicolungui, un petit peu.
Non mais là,
vous savez
que là, à la limite, ça c'est une fausse piste, hein, parce que je comprends qu'on veuille prendre ce chemin-là et pourquoi pas, mais il y a énormément de présidents. D'ailleurs, la plupart des présidents ne viennent pas du foot. Tu peux avoir le directeur sportif qui vient, un président délégué éventuellement, mais les patrons souvent ont fait d'autres activités.
Après, disons que pour certains, quand t'as dépassé 15 ans à la tête d'un club, on peut considérer quand même
voilà.
que tu,
donc,
tu connais un peu les arcades.
Soit tu apprends sur le tas parce que tu voilà. t'es bien entouré, soit tu peux être bon parce que tu comprends que c'est pas exactement une entreprise comme une autre. Et après, effectivement, comme tu dis, et là je peux te rejoindre, bah t'arrives pas à prendre conscience que c'est quand même une entreprise un peu différente de la normalité.
Si tu prends les 20 clubs de Ligue 1, je sais pas s'il y en a 5 qu'on pourra qualifier de venant du monde du foot.
Mais c'est pas le venant du monde du foot. La compétence, tu peux la gagner. Tu peux la travailler, tu peux te renseigner, tu peux bosser là-dessus. Il y a plein de présidents qui venaient pas du... Hey, Bernard Tapie, il vient, il connaissait rien au foot, il connaissait rien à Marseille.
Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a laissé un grand souvenir à Marseille.
Ouais, mais comment, bah si. Comment le finir?
Ça, c'est autre chose.
Non, mais Daniel,
non, mais
je sais que c'est autre chose.
Non, mais c'est
mais
autre chose.
Tu peux pas, parce que t'es juste en train de dire avant, t'as des mecs qui arrivent, qui apprennent, et tu me parles de Bernard Tapie qui arrive et qui l'a appris.
Olas arrive à Lyon, il connaît pas un mot de football.
C'est ça.
Et il a même pas la culture du foot.
Là, je suis
il a appris, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré avec des mecs compétents, et lui, il a compris la différence entre l'entreprise classique et son argent.
Mais aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on focalise, on se focalise sur les héros
qui ont mis leur argent et qui ont coulé.
Oui, tu vois, mais Daniel, non, mais d'accord. Mais bon, quand c'est pas ton argent, quand t'es un président délégué.
Aujourd'hui, le problème, Daniel, à Marseille, héros, à la rigueur, héros, il a fait des erreurs de com depuis qu'il est arrivé. Mais héros, c'est pas son pognon et il décide de rien. C'est au-dessus que ça décide. Lui, on lui dit, toi, tu dois économiser cette année. Tu dois faire moins 30 millions entre les achats et les ventes. Il fait ça.
Il fait la compta.
Il y a eu plus que des erreurs de com. Il y a eu quand même 2 ans et demi avec Rudy Garcia où il y a eu des transferts qui ont quand même plombé les finances de l'OM.
Oui, non, mais à un moment donné, c'est pas McCourt qui va valider les transferts. Il faut bien que ça soit quelqu'un d'autre qui les valide.
Normalement, si après, là où je te suis totalement, c'est que pour moi, Franck McCourt est en ce moment aux abonnés absents, ne serait-ce qu'en termes de com, puisque tu parlais de com. À un moment donné, il faut entendre le patron, il faut savoir où l'OM va, il faut savoir si effectivement, comme le disait Jérôme, c'est qu'il veut récupérer des sous, s'il y a encore un projet à long terme, s'il se pose des questions sur sa présence à l'Olympique de Marseille aussi.
Mais justement,
s'il
McCourt,
a été déçu que certains projets ne se soient pas assez mis en place.
McCourt, il s'en fout un peu de l'OM.
Ça représente un investissement.
Non, c'est de l'argent. Et qu'à un moment donné, il veut gagner de l'argent avec. Voilà.
Non, mais ça, on le sait pas. Il a raison, Flo. Il faut communiquer. Pour éclaircir un petit peu les zones d'ombre qu'on peut avoir. Parce que là, on en tire des conclusions.
Ouais, mais si Héro était bon, on n'aurait presque pas besoin d'entendre forcément McCourt.
Mais
s'il gérait en patron, si à chaque fois qu'il parlait, c'était pas pour balancer une saucisse, ce serait déjà bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il fait un truc, pardon, là, ce qui s'est passé dans la gestion de Villas-Boas, de prendre l'anglais, c'est pas bien fait.
Concluons avec Slim qui veut rajouter quelque chose.
Il a jamais été en connexion avec le peuple à Marseille. Ça,
Slim, supporter marseillais.
Quand tu diriges l'OM, t'es à la rue déjà.
Slim, vas-y.
Bah écoutez, merci les gars. Bon, en fait, la différence, et là où je veux venir, c'est que tu as par exemple, pour faire simple, Christophe Boucher, c'est un ancien journaliste. Pape Diouf, c'est un ancien journaliste. Dacier est aussi un ancien journaliste. Donc, ils connaissent en fait la communication, ils savent comment s'adresser aux gens, comme ils savent s'adresser en fait à un public, comme en fait à des dirigeants. Donc, pour ma part, déjà, le côté communication que n'a pas Jacques-Henri Hérault, fait qu'en fait, il n'est pas du tout du sérail, même médiatique. C'est simplement un simple gestionnaire, ni plus ni moins.
Il a dirigé plein d'entreprises, évidemment, qui sait communiquer.
Oui,
le problème n'est pas de savoir communiquer. Le problème est de savoir dans quel cadre tu tombes, le contexte. Et le tout n'est pas savoir communiquer. Le tout est de savoir être sincère et compétent. Et savoir que si quand tu diriges l'OL, c'est pas comme diriger Lyon, c'est pas comme diriger Paris.
Florent,
c'est
merci beaucoup.
Ces différences-là.
Merci
déjà.
À vous, les amis.
Salut, Florent. Bonne soirée. Ciao.
En fait, Héro, il aurait pu être à l'OM comme il aurait pu être à Lorient, comme il aurait pu être à Nantes. Ça, c'est déjà vrai. En soi, c'est une erreur.
Slim, merci au 32-16. Et Willy, merci également.
Bah, merci à toi, Gilbert.
Écoute, merci, on se retrouve la semaine prochaine.
Salut, Willy.
Bravo, à la semaine
prochaine. Sache que, au moment où tu pars,
repose-toi bien.
Hein?
Toi, tu restes.
Ah ben, attends, je bosse au vendredi, samedi, dimanche, pas de week-end.
Oh, dur.
Mais
toi, tu viens de reprendre.
Willy, au moment où tu pars, sache-le.
Oui.
Pau mène 2-1 contre Bordeaux.
Ah, oui, oui, oui. Je vais aller voir la deuxième mi-temps. La fin du match à la porte.
La deuxième mi-temps vient de reprendre. On rejoint Nicolas Paulhorcy dans quelques instants, juste après les infos. Et dans quelques instants, on va également ouvrir le débat des gros clubs. Les gros clubs qui pensent plus au bilan comptable qu'à gagner des titres. Et oui, c'est plus que fréquent désormais. On va prendre l'exemple de Manchester United dans quelques instants. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot. Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we. With annual reviews to keep you on our best possible tariff. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. Based on an annual review of activity for businesses with up to a £2 million turnover.